Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job, mais on fera la lecture dans un instant. Livre de Job, un livre de sagesse. On attend de certaines personnes qu'ils soient particulièrement intègres, droites, justes, tenant leurs paroles envers nous. Et c'est le cas d'une relation entre conjoints, entre bons amis ou avec un proche parent. La confiance repose sur la droiture et elle est mise à mal quand les attitudes, les paroles et les actions donc, ne correspondent plus aux engagements, à ce qui est juste, à ce qui est bon, à ce qui est droit. Et certaines personnes qui ont un pouvoir reconnu dans notre société, comme des représentants politiques ou des représentants religieux ou dans l'éducation, ont perdu leur crédibilité justement à cause de leurs manquements en agissant malhonnêtement ou en l'encontre du bien de ceux donc qui leur ont fait confiance en croyant à leur loyauté, en croyant à leur engagement. Et cela est de moins en moins pardonné. Quand on fait confiance et que la confiance est bafouée, alors c'est difficile de pardonner. Ainsi, donc, l'intégrité, la loyauté, la droiture, la justice, l'esprit de service pour le bien de l'autre et la non-corruption sont des qualités attendues pour établir une union reposant sur une bonne relation de confiance. Et ce qui est valable pour les relations humaines, c'est aussi valable pour notre relation avec notre Dieu. Et je vous propose ce matin de regarder l'exemple donc dans la Bible de Job et de voir ce que notre Seigneur attend de nous pour que nous vivions avec lui une relation transparente, une relation intègre de confiance. Et donc nous allons lire le début de son histoire et donc il faudrait avancer le PowerPoint si possible, si tu peux mettre la diapo 4. La vue 4. Donc on va lire dans Job, une lecture un peu longue, tout le chapitre 1er, puis les 3 premiers versets du chapitre 2. Il y avait dans le pays d'Ut un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, donc des fils donc déjà bien adultes, hein, tour à tour pour donner un festin, et ils envoyaient une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job agissait toujours. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu ?» Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme droit, qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Oula. Oula. Donc, l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de sa présence de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés les années passées, à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail et les serviteurs et il les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en trois bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et... tu m'incites à le perdre sans cause. » Et on va pas continuer, mais Satan dit, mais alors, touche à son corps, et tu verras. Là encore, il va te maudire. Et la suite, c'est les longs chapitres jusqu'au chapitre 40 de Job. Que le Seigneur donc bénisse sa parole. L'histoire de cet homme, Job, commence donc par quelques informations sur sa personne, sur ses origines et sur sa façon de vivre en rapport avec Dieu. Dès les premiers versets, l'auteur décrit Job comme un homme intègre, un homme droit, un homme qui craint Dieu. Et il décrit aussi que sa condition sociale, il avait une grande richesse et 7 fils et 3 filles. Et cet homme était considéré par tous ceux qui le côtoyaient. Ce que fait remarquer l'auteur sur l'intégrité, sur la droiture et la crainte de Dieu de Job, l'Éternel aussi le fait remarquer à Satan. L'histoire nous apprend qu'alors que Satan se présente devant Dieu, nous venons de le lire avec ses anges dévoués, décrits ici comme des fils de Dieu, donc Satan l'informe qu'il vient de parcourir la terre. Et Dieu lui fait remarquer alors qu'il y a sur la terre un homme que personne n'est comme lui, en raison de son intégrité, de sa droiture, mais aussi de sa crainte de Dieu, qui se caractérise par le fait qu'il a une vie qui s'écarte du mal. C'est le chapitre 1er, verset 8. Cette intégrité, cette droiture et cette crainte de Dieu de Job, soulignée par l'auteur, sont donc bien rappelées par Dieu lui-même, par ses paroles, avec en plus cette non-acceptation du mal qui est ajoutée, qui caractérisait les choix de Job. Par la suite, Satan, on a vu, chapitre 2, se représente devant Dieu, et on lit donc dans ce chapitre que Dieu lui fait encore remarquer la vie exemplaire, malgré tous les malheurs qui viennent lui tomber dessus, de Job, en soulignant encore son intégrité, sa droiture, sa crainte de Dieu et sa non-acceptation du mal. Mais Dieu ajoute que malgré les diverses épreuves qui se sont abattues sur lui, il demeure ferme dans son intégrité. Cette façon d'être et de vivre de Job est donc remarquable, puisque elle correspond à l'attente de Dieu vis-à-vis des hommes, particulièrement de ceux qu'il a inclus dans son peuple comme ses enfants. Quand j'ai préparé ce message, j'ai pensé à un autre texte qu'on trouve dans le prophète Michée, qui a vécu 8 siècles donc avant Jésus-Christ, donc bien des siècles après Job. Hein. Et dans son livre, le prophète Michée délivre plusieurs messages de la part de Dieu. Et au chapitre 6, il y a là un message de la part de Dieu à Israël, où il souligne que ce qui compte aux yeux de Dieu, à ses propres yeux, avant tout les sacrifices et les holocaustes, c'est que l'on pratique, et on retrouve là, le droit, et qu'on soit loyal et que l'on marche humblement avec lui. On connaît donc ce verset 8, hein, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Un verset qui est chanté, qui était chanté dans le temps. Dieu l'attend aussi, de chacun de nous qui avons reconnu, qui avons accepté notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi arrêtons-nous un instant sur l'attente de Dieu à notre égard. Quelle est cette attente ? Sois intègre, sois droit, sois non corrompu, sois respectueux de ma personne, de Dieu. Dieu donc attend que nous soyons intègres. Qu'est-ce qu'être intègre ? Le mot intègre est employé pour qualifier quelqu'un d'entier. C'est être entier, d'honnête, qui est incorruptible, qui est sans faille. Ne pas être intègre, c'est être corrompu, malhonnête. Dieu attend que nous soyons intègres. Donc, en étant non corrompu par quoi ? Par le péché, par le mal, en étant rigoureusement alors fidèle au principe de la justice, au principe de la moralité voulue de Dieu, au principe de sa volonté. C'est pourquoi celui qui est intègre aux yeux de Dieu s'écarte du mal, de ce que désapprouve Dieu, comme le faisait Job. Dieu attend que nous soyons aussi droits. Alors, pas droit comme ça, mais droit dans notre cœur. Qu'est-ce qu'être droit ? Une personne qui est droite agit justement honnêtement. Elle est loyale et honnête, en conformité à une ligne de conduite, intellectuelle et morale rigoureuse. Et pour Dieu, celui qui est droit est celui qui se conforme à sa volonté, qui tient compte de Dieu au sujet de ce qu'il agrée ou pas, de ce qui est bien, bon ou mauvais, et alors en faisant bien sûr le choix du bien, comme Job le faisait, en s'écartant du mal. C'est ainsi que l'intégrité et la droiture voulues de Dieu pour vivre avec lui sont aussi en rapport avec la crainte de Dieu, que nous savons peut être comprise par le respect de Dieu. Donc, hein, j'aime bien expliquer cette crainte de Dieu. On avait une sœur, enfin, on avait maintenant, elle est allée sur Sorgue, mais une sœur qui aimait pas trop qu'on dise qu'on doit avoir la crainte de Dieu. Alors, je disais, mais il faut comprendre la crainte de Dieu par j'ai peur de Dieu, mais par le respect de Dieu. Vraiment reconnaître pour ce qu'il est et le respecter. Oui, donc Dieu attend que nous tenions compte de lui dans notre vie, de sa personne, de sa volonté, d'en tenir compte dans ce que nous avons en notre cœur et par nos actes et paroles. Il s'agit donc d'être honnête à l'égard de Dieu en ayant un comportement loyal à son égard et envers ses attentes. Il s'agit donc d'être entier pour Dieu. C'est ce qu'il attend de chacun de ses enfants, de ses rachetés. Du temps de l'apôtre Paul, Paul écrit aux chrétiens de Corinthe sur sa façon d'agir et sur celle aussi de ses collaborateurs, de ses coéquipiers. On lit au chapitre 4, dans les premiers versets de la première aux Corinthiens, il écrit qu'ils ont agi, lui et ses coéquipiers, honnêtement à l'égard des chrétiens de Corinthe. Et envers Dieu, en refusant quoi ? Les cachotteries honteuses, dit-il, en ne se conduisant pas avec fourberie, en n'altérant pas la parole de Dieu et en étant attachés à la vérité, en ne se mettant pas en avant tout en présentant dans leur enseignement le Christ Jésus, notre Seigneur, en devenant leur serviteur afin de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Paul, donc, et ses compagnons étaient intègres, et ils étaient droits, et non corrompus par le mal. Et cela est bien concret, donc, dans leur vie, dans leur service, car ils avaient placé au centre de leur vie le Christ Jésus. Ils avaient le grand désir de faire sa volonté, et donc, en faisant connaître aussi cette volonté de Dieu à d'autres. Ces hommes étaient en quelque sorte donc porteurs de la lumière de Dieu et du Christ Jésus. Ils se laissaient traverser par la lumière de Dieu pour que d'autres la voient. Oui, pour que d'autres la voient. L'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et la non-acceptation du mal donc se vivent et doivent se voir dans notre quotidien. Cela se concrétise donc pour que notre entourage les voit. Et ce n'est pas simplement des belles paroles qui tiennent compte d'un engagement qui va être que des belles paroles, mais ça se concrétise par une vie en donc essayant de marcher donc avec notre Dieu en nous écartant du mal. Alors on peut se poser la question, si Dieu décrivait ma vie, si Dieu décrivait ta vie, notre vie, qu'est-ce qu'il dirait de nous? Qu'est-ce qu'il dirait de nous? Avons-nous à cœur de marcher avec lui d'une façon intègre, droite, en nous écartant du mal et en tenant compte de sa personne et de sa volonté? Est-ce que Dieu dirait, c'est bien, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante? Oui, c'est une question à se poser. Alors, nous allons plus loin en regardant comment dans la vie de Job manifestait justement donc ce respect de Dieu. Comment la vie de Job manifestait la crainte de Dieu. La première chose que je soulignerai, c'est qu'il avait le désir et il agissait pour que ses proches soient avec Dieu. Le verset 4 à 5 du chapitre 1er nous apprennent que les enfants de Job faisaient des festins entre eux. À la fin de ceci, Job faisait venir ses enfants pour les sanctifier, et alors il offrait pour chacun d'eux un holocauste pour les fautes qu'il aurait pu commettre lors de ces festins. Une marche intègre alors avec Dieu, me semble-t-il, se caractérise par le souci d'agir pour que nos proches aient aussi une vie intègre qui plaise à Dieu. Job avait éduquer certainement sans doute ses enfants dans la crainte de Dieu. Mais il savait que devenant adulte, ceux-ci pouvaient commettre des actions et avoir des pensées donc mauvaises qui pouvaient donc cacher à leur père. Ces péchés, Job ne les soupçonnait pas forcément. Mais Job donc savait qu'il pouvait s'approcher de Dieu et plaider en faveur donc de ses enfants en offrant donc un holocauste pour chacun, un sacrifice d'un animal entier pour que Dieu pardonne leurs péchés s'ils en avaient commis. Pour Job, il lui était donc important que tout ce qui le touche soit conforme donc à la volonté de Dieu, y compris ses enfants. Il lui était important donc de voir ses enfants aussi connaître le Seigneur. Et c'est pourquoi donc, même en faisant cet holocauste offert pour leurs péchés, s'ils en avaient commis, il leur montrait aussi l'importance donc d'être intègre devant Dieu. Et que s'il y avait un péché dans leur vie, ils devaient aussi demander le pardon de Dieu. Alors, posons-nous la question, que faisons-nous pour que nos proches marchent avec Dieu? Que faisons-nous? Je me la pose pour moi-même. Il ne s'agit pas d'offrir, bien sûr, un sacrifice à Dieu, car l'unique sacrifice a été offert par notre Seigneur Jésus, une fois pour toutes, pour que Dieu nous offre sa grâce et sa faveur. Mais en vertu alors de cette grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Donc, oui, comment nous approchons de Dieu pour que nos enfants puissent le connaître? Est-ce que nous apportons à Dieu nos enfants, nos proches, ceux qui nous sont chers? Et oui, est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que nous essayons par notre vie de leur témoigner de ce que cela veut dire de marcher humblement avec son Dieu? Il me semble important que donc si nous voulons marcher avec le Seigneur, que cela se voit pour que d'autres puissent aussi être touchés par la grâce de Dieu et puissent aussi à leur tour marcher avec Dieu. Nous sommes aussi intègres avec Dieu quand nous lui restons fidèles, quoi qu'il nous arrive. Et c'est une deuxième remarque que je ferai, donc par rapport à l'histoire de Job. Job manifestait la crainte, le respect de Dieu, malgré ses nombreuses épreuves envoyées par Satan. Au verset 9 à 11, Satan ne contredit pas Dieu sur l'intégrité et la droiture de Job, sur sa vie, qui tient compte de Dieu. Mais il va avancer alors une théorie, dans le but d'amoindrir son exemple d'homme de foi. Satan alors dit à Dieu, qu'en fait si Job a une telle foi, c'est parce qu'il est béni, et sa foi est de ce fait renforcée par les bienfaits qu'il reçoit de Dieu. Excusez-moi. Satan ainsi est en train de remettre en question l'intégrité de Job, de la foi de Job, car pour lui, elle n'est pas désintéressée, sa foi. C'est pourquoi Satan ose dire à Dieu, « Et si tu étends ta main, non pour le bénir, mais pour l'éprouver en lui, enlevant ce que tu lui as donné, et dont il en a joui pour son grand bonheur. » Alors, donc, Dieu dit à Satan, Satan dit encore, « Alors, il va te maudire si tu fais cela. » Il va te maudire. Et l'histoire nous dit que Dieu dit à Satan, tu peux encore, donc tu peux toucher à ses biens, tu peux toucher à ce que, au bienfait qu'il bénéficie. On voit ici que ce qui caractérise l'intégrité et la droiture spirituelle, c'est d'avoir donc une foi qui ne dépend pas de parce que Dieu me bénit, hein, qui ne varie pas selon si Dieu bénit ou s'il permet l'épreuve. Donc, une foi qui serait plus grande quand Dieu nous bénit et plus petite si ce que nous vivons est plus difficile. Car il faut savoir que dans notre vie, que nous soyons enfants de Dieu ou pas, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments difficiles. Ainsi est la vie. Il est certain que les épreuves de Job étaient loin d'être des petits ennuis. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Satan met le paquet, si j'ose dire. Donc il ne ménage pas Job et les siens, vu qu'il se plaît à lui faire subir épreuve après épreuve, une derrière l'autre. Il lui enlève tout, même ses enfants. Il lui reste que sa femme et sa personne. Il perd ses enfants, puis ses nombreux troupeaux. Il se retrouve sans enfants, ni richesse, et cela ne le laisse pas indifférent, bien sûr. Il prend le deuil. Puis, il est éprouvé dans sa santé, et ça on ne l'a pas lu, c'est dans le chapitre 2. Mais il est ajouté que Job n'attribua rien de scandaleux à Dieu pour ce qui lui est arrivé. Il n'en voulait pas à Dieu. Pourtant, avec ces grandes épreuves, combien de personnes auraient fait connaître à Dieu leur incompréhension, et ça je pense qu'on peut le faire, voire leur reproche, ça par contre on ne peut pas le faire. Parce que Dieu, donc, il n'y a pas de reproche à faire à Dieu. Mais on peut dire, Seigneur, je ne comprends pas. Mais Job n'en fit rien. Il resta intègre dans sa foi. En fait, quand on regarde après la suite du livre, quand finalement ses amis vont venir pour le soutenir, ils ne vont pas toujours être d'un bon soutien, donc ils vont l'amener à ouvrir encore plus son cœur face aussi aux remarques des amis et par moments aussi quand même de montrer combien ce qu'il vit n'est pas simple et pas facile et qu'il y a bien des incompréhensions de sa part. Hein? Oui, par moments, c'est vrai, le monde dit, donc le sort s'abat sur une personne, hein, ou sur une famille, donc sur un couple. Hein, donc, et ceci par une série d'épreuves qui touchent donc au confort et aux personnes. Problèmes de santé, mort d'un proche, perte de travail, enfin bref, la liste peut être assez grande. Et par moments, l'épreuve ou les épreuves sont sur notre chemin de vie. Et alors, comment les vivons-nous? Comment les vivons-nous? Quand les épreuves sont sur notre route, restons-nous confiants en Dieu ou le boudons-nous? Hein? Seigneur, ça m'arrive encore. Alors, moi je dis toujours, hein, j'espère pas vous choquer, que quand je me tape sur un doigt, je ne dis pas merci Seigneur. Ça va? Vous le faites, vous, quand vous vous tapez sur un doigt? Dites merci Seigneur? Non, je dis aïe, quoi, quand même, hein. Je dis aïe, zut, et flûte. Et donc, et il me semble que quand les épreuves nous arrivent, il n'est pas anormal de perdre le sourire, d'être, que ça nous touche pleinement. Job a porté le deuil. Donc, c'est pas anormal. Mais après, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on en veut à Dieu? Est-ce qu'on n'a plus envie de parler à Dieu? Au lieu que finalement on devrait plutôt dire « Seigneur, aide-moi à vivre ça, aide-moi, Seigneur, tu sais, je ne sais pas quoi te dire, mais Seigneur, sois avec moi, soutiens-moi dans des moments comme ça. » Donc, oui, comment vivons-nous nos épreuves? Pouvons-nous manifester comme Job notre grande confiance en Dieu en acceptant de vivre nos épreuves avec lui? Car c'est ce que Dieu veut faire. Job avait une foi en ce moment-là inébranlable, car il avait une ferme assurance que ce que Dieu est, que ce que Dieu fait est bon. Et je vous invite vraiment à graver cela dans votre cœur et dans vos têtes. Dieu, ce que Dieu est et ce que Dieu fait est bon. Et que ça reste dans nos cœurs. Et cela souligne que pour avoir justement une foi solide, donc il faut que celle-ci repose sur des bases qui sont des convictions, des vérités au sujet de Dieu et de sa volonté pour nous. Des vérités qui nous assurent que nous pouvons garder confiance, garder la foi en lui, quoi qu'il en soit. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu, qui nous donne donc des assurances sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu fait, ou sur ce que Dieu permet, on le voit ici avec Job, mais en nous disant bien que tout cela est toujours dans son plan, un plan bienveillant à notre égard, afin que ces épreuves puissent être le mieux vécu et que, étant sûr donc que Dieu est là, que Dieu veut nous aider et qu'au bout, à la finalité, c'est pour notre bien, donc nous puissions rester confiants en lui et ne pas nous priver de sa présence et de son soutien. L'intégrité de Job s'est vue donc dans les épreuves qui l'ont touché. Job a gardé sa foi à un Dieu qu'il connaît, qui sait ce qu'il fait et laisse faire. Puissions-nous donc comme lui bénir l'Éternel, non pour ce qui nous arrive, bien qu'on peut le faire, hein, bien sûr, hein, mais parce que l'Éternel est digne d'être béni, quoi qu'il en soit. Alors pour conclure, que notre souhait, notre désir soit que dans les mois à venir, donc nous devenions chacun de nous de plus en plus des hommes et des femmes de Dieu intègres, droits, qui rejettent tout mal et qui marchent humblement avec leur Dieu, en lui laissant bien sûr la place de Seigneur de notre vie et en lui donnant toute notre confiance, quoi qu'il en soit. Que Dieu donc agisse par son Esprit Saint en nous pour qu'il en soit ainsi. Seigneur, nous te bénissons pour l'exemple de Job. Nous te bénissons pour les assurances que tu nous donnes au fur et à mesure que nous avançons avec toi, que nous apprenons à te connaître, que nous te voyons aussi agir dans nos vies, mais aussi dans la vie de nos frères et sœurs. Combien, Seigneur, nous pouvons proclamer que tu es bon. Nous le chantons souvent. Oui, tu es bon. Et de ce fait, ta volonté, elle est bonne. Elle est parfaite. Elle est agréable. Et nous te prions pour que tu nous aides dans les moments difficiles, car il y a sur notre chemin des moments difficiles. Oui, tu ne nous en épargnes pas. Tu nous aides à marcher avec toi, comme le dit le psalmiste, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, que nous puissions avoir cette grâce de vivre dans les moments les plus difficiles avec toi. Et que, Seigneur, le mal se tourne en bien, c'est ce que nous croyons aussi avec toi. Nous voulons aussi le voir. Alors merci Père, merci de ta présence à nos côtés, merci de ton œuvre dans nos cœurs, par ton esprit, et merci que nous pouvons venir à toi, et même te dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais Seigneur, soutiens-moi. Amen.